Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Il est donc bien 8h17. Vous êtes à l'écoute de Bretagne 5 et notre invité politique de la matinale est Quentin Salambien. Il est référent Horizon Jeune Bretagne. Il a fait le chemin par le train, il faut bien le dire, pour venir de Rennes et être en direct ce matin au micro de la matinale. Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour.
Alors Quentin Salambien, on va parler, je me répète souvent le matin, on va évacuer les questions de ce qui ne va pas avec le budget par exemple, tenez au hasard, budget de l'État qui doit être voté à l'Assemblée nationale alors qu'on a appris que peut-être le PS serait finalement prêt à accepter un recours au 49-3, mais sous condition. Est-ce que pour vous, c'est un cap qui se passe aussi et puis ça éloigne un peu le chaos d'une motion de censure, peut-être d'une dissolution.
Écoutez, en tout cas, si ça éloigne le chaos, il serait temps. Après une année 2025, je pense, dont on ne pourra pas retenir la stabilité, c'est une certitude. Aujourd'hui, ce qu'attendent, je pense, les Français, en tout cas à mon échelle, de ce que j'en observe, et c'est un ressenti très personnel, c'est un besoin de stabilité, un besoin de cap. Voilà. Après une tempête politique de plusieurs mois, je dirais même de plus d'une année, puisque en réalité, cette tempête politique, elle est le résultat d'une dissolution qui, en 2024, a conduit à un pays quasiment ingouvernable, avec des décisions de plus en plus complexes et des alliances parfois assez contre nature pour tenter d'endiguer la situation. Malheureusement, on observe toujours des difficultés. Aujourd'hui, donc on a eu ce PLFSS, on a maintenant ce budget de l'État, deux débats qui sont très importants pour la vie de la cité, pour la vie de la démocratie et son fonctionnement au niveau des services et de l'État. Je pense que aujourd'hui, il est temps de faire preuve de modération. On a eu ce jeu anti-système du côté des extrêmes qui a assez duré. On a eu des tentatives, et je le déplore, au niveau du PLFSS, de discussions qui n'ont pas vraiment abouti à une réelle solution. En tout cas, c'est ce qu'on pense chez Horizon. Quand vous avez des compromis qui finalement n'en sont pas d'ailleurs, sur des choses comme la réforme des retraites, avec finalement une dette qui ne fait que s'accroître sans cesse, je pense qu'on n'est pas au bout de la solution.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu est en train de réussir quelque part son pari de tenir plus longtemps que les gouvernements précédents, et son pari aussi de peut-être avoir une première marche pour écrire la suite.
Écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Encore une fois, chez Horizon, on prône avant tout le compromis, le sens de la discussion, la modération pour construire un cap. On n'ira pas à dire que le cap qui est en train de se dessiner est celui qui nous ravisse le plus. Bien au contraire, d'un point de vue budgétaire, c'est assez catastrophique parce que, sans vouloir faire preuve de pessimisme, on est quand même sur une pente descendante au niveau de nos finances publiques plutôt que sur une vraie vague d'espoir.
On a entendu Édouard Philippe s'exprimer là-dessus en disant le budget n'était pas satisfaisant, mais néanmoins, il fallait essayer d'éviter justement ce fameux chaos.
Il le fallait, et c'est d'ailleurs pour ça que chez le groupe Horizon et Indépendants, le vote a été en faveur de l'abstention. Pourquoi ? Parce qu'on n'allait pas voter pour un texte dans lequel on ne croyait pas, puisque les chiffres et les résultats promis ne sont pas ceux que l'on espère. À l'inverse, nous n'allions pas voter contre pour faire le jeu antisystémique des extrêmes et ajouter du chaos et du bruit au bruit et finalement aggraver la situation.
À propos justement de LFI et du Rassemblement National, on les voit progresser. Alors LFI s'est un peu tassé, il faut dire, cet an dernier, mais on voit le RN et on a personne, Jordan Bardella en particulier, progresser dans les sondages. Alors là, on est déjà sur des sondages qui concernent l'élection présidentielle, donc on va être très prudent, il y a encore beaucoup de temps, beaucoup de choses peuvent se passer au niveau politique, on l'aura compris, c'est assez instable encore. Est-ce que c'est quelque chose qui interroge à Horizon, par exemple ?
C'est quelque chose qui interroge, mais qu'il faut prendre avec des pincettes. À mon sens, les sondages peuvent dire ce qu'ils veulent. Derrière, je vais vous dire, on reste quand même sur l'image que les Français ne sont pas dupes, que les Français sont face à un ras-le-bol politique, sociétal. Il y a énormément de difficultés aujourd'hui qui pèsent sur le quotidien des Français, sur leur portefeuille, sur leur vision de l'avenir, sur les nouvelles générations. Mais je reste persuadé qu'on ne gouverne pas en agitant les peurs, plutôt en construisant l'avenir, construisant l'espoir. C'est ce qu'on fait chez Horizon, c'est pour ça qu'on se structure, c'est pour ça que j'ai envie de dire, le souffle démocratique et cette petite bulle d'air que vont être les élections municipales vont aussi aider à rétablir une certaine proximité avec un projet de ville, avec partout en France et ici, évidemment en Bretagne, des projets locaux qui vont ramener cette proximité, cette réalité du terrain qui est parfois nécessaire en politique, qu'on a peut-être perdu à travers les années. Je ne jette pas la pierre, bien sûr, aux élus nationaux qui parfois, et je pense, fournissent un travail très important pour tenter d'améliorer la situation, mais qui peut-être parfois oublient les réalités territoriales qui sont plus que jamais nécessaires et de rétablir.
On entend d'ailleurs les Français le dire, pointer du doigt le personnel politique en disant voilà, ils sont loin de nos préoccupations, voilà, il y a une perte de confiance et un fossé qui s'est creusé. Là aussi, il va falloir peut-être à l'échelle locale arriver à remettre en place justement ces ponts entre le politique et le citoyen, tout simplement.
Bien sûr, mais je vais vous dire, cette politique locale, pour moi, elle est primordiale. C'est même quasiment l'échelon, si je peux parler d'échelon électoral, qui fonctionne le mieux, parce qu'on dit souvent que le maire est à portée de baffe. C'est plutôt réaliste à mon sens. Et quand on sait le poids qu'ont les décisions publiques locales sur le quotidien des Français, parce qu'on parle beaucoup de politique nationale, et à raison, parce que ça fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a des débats vifs.
Il y a une incidence aussi sur les territoires, par exemple sur le budget.
Bien sûr, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, la politique locale reste la politique de proximité, la politique du dialogue et du contact direct avec le citoyen. Et je pense qu'il ne faut pas la négliger, que les échéances qui arrivent en mars 2026 sont importante pour qu'on puisse avoir cette proximité et éviter la défiance parfois à raison, mais parfois exagérée qu'on peut avoir envers les politiques.
On va revenir au municipal, juste un petit mot justement, mais en lien avec les municipales d'ailleurs, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit aussi une forme de, je mets les guillemets, hein, de référendum de pour ou contre la politique qui a été conduite jusqu'à présent par Emmanuel Macron? Là aussi, on voit des intentions de vote qui se dessinent pour le Rassemblement National, là encore, ou pour LFI, là encore. Est-ce que ça peut être aussi un vote peut-être contestataire aussi, ces élections?
Ça peut l'être. Et en même temps, je vais vous dire, la politique locale a cette spécificité de la visibilité directe. On voit directement l'action des élus au niveau local, là où parfois on a un peu plus de flou sur la politique nationale. Lorsque vous avez des élus municipaux, des conseillers municipaux, des adjoints, des maires qui travaillent leurs dossiers, qui sont sur le terrain, qui vont à la rencontre de ceux qui font vivre les villes, les commerçants, les entreprises, les associations, les citoyens, on a cette réelle connexion qui n'est pas juste du paraître. Là où bien souvent on peut avoir un vote contestataire à l'échelle nationale, je reste persuadé que l'échelle locale a cette certaine beauté de pouvoir être en proximité et de ne pas duper les citoyens.
Le terrain, toujours le terrain, on le voit, il y a là aussi des citoyens réclament hein, que leurs élus soient sur le terrain. C'est peut-être aussi pour ça que les maires sont très bien considérés, là encore dans les sondages, ça ne se dément pas d'année en année. Et puis il y a les grandes colères, il y a les grandes fractures, il y a les grands drames de la société en ce moment. C'est la colère des agriculteurs, on l'a vu avec la dermatose nodulaire, avec une mobilisation essentiellement dans le sud-ouest hein, qui prend de l'ampleur, mais elle va trouver un prolongement à Bruxelles cette mobilisation aujourd'hui même devant le Parlement européen avec justement les accords du Mercosur qui risquent d'être signés ou pas d'ailleurs, puisque quelques pays comme la Pologne, l'Italie ou encore la France n'ont pas envie qu'ils soient signés dans l'état actuel des choses. Est-ce que c'est une bonne chose de mettre en pause ces accords et de les rediscuter ?
Écoutez, je pense que les agriculteurs ont eu bien assez d'occasions de souffrir ces 20 dernières années, que là encore, on a une déconnexion assez flagrante de la réalité de ce que sont nos champs, de ce que sont nos agriculteurs qui chaque jour ont pour dure mission, et je pense qu'on peut insister là-dessus, de nourrir la population française. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ces accords internationaux, ou du moins ces tentatives d'accords internationaux, elles sont complètement contraires à la préservation d'une souveraineté alimentaire, à la considération de nos agriculteurs, à leur vie économique, parce que faut pas avoir peur de peser les mots en la matière. Oui, il y a un enjeu économique chez les agriculteurs. Oui, il y a un métier de passion. Mais il arrive un moment aussi où il faut que les agriculteurs puissent s'y retrouver à la fin du mois. Aujourd'hui, on assiste trop souvent à des drames d'agriculteurs qui mettent fin à leur jour, qui mettent fin à leur activité, qui n'arrivent pas à transmettre à leurs enfants par difficulté. Aujourd'hui, cette ouverture au Mercosur, c'est finalement la porte ouverte à une concurrence, pour le coup, que je juge assez déloyale. Quand vous ouvrez à un marché qui n'a pas les mêmes règlements, qui n'a pas les mêmes normes environnementales, ni même les mêmes coûts d'exploitation, forcément que vous mettez en péril la souveraineté alimentaire du pays.
Alors, juste un petit message de service, si vous pouvez éloigner votre téléphone du micro, voilà, c'est le
bien
réalisateur
sûr
qui me le demande, ça, voilà, c'est le directeur, on entend un petit peu le bruit du téléphone, voilà, je ferme la parenthèse. Pour poursuivre sur le monde agricole, les exploitations disparaissent aujourd'hui, les plus petites disparaissent, il y a aussi le risque peut-être de voir demain de grandes exploitations un petit peu à l'américaine, voilà, qui pourraient prendre pied en Europe et en France, alors qu'on était quand même plutôt sur des exploitations familiales. Il faut les préserver, ces petites exploitations aujourd'hui, elles font partie de la diversité.
C'est même, je dirais, le pilier de notre agriculture en France. Si on n'arrive pas à préserver cette agriculture de proximité, de terroir, avec des produits bien souvent d'une qualité assez exceptionnelle, avec les petits producteurs qui sont près de chez nous, on court très clairement à une perte de souveraineté énorme, à une perte de proximité. Encore une fois, on en revient à ce sujet de déconnexion avec le terrain et avec ceux qui nous nourrissent.
Là aussi, les politiques ont leur mot à dire. Alors, je parle des politiques locales ou des politiques locaux,
oui,
si on parle du personnel politique. Par exemple, acheter aux agriculteurs du secteur les denrées pour la cantine ou pour les EHPAD. Voilà, là aussi, c'est un cercle vertueux qui peut se mettre en place.
Bien sûr. Les élus locaux ont toute leur importance, et vous l'avez dit, dans les cantines scolaires, dans les restaurations collectives qui peuvent être de bâtiments administratifs ou d'autres services municipaux. C'est toute la vertu d'ailleurs de la loi Egalim qui tend vers une meilleure alimentation pour les Français, et notamment en incitant les collectivités à davantage de proximité, davantage de produits de qualité, et en faisant vivre l'agriculture locale. Aujourd'hui, force est de constater que cette loi Egalim, elle a ses failles, elle a parfois ses mauvaises applications, mais que les politiques locales doivent jouer leur part. On va souvent aller taper sur les politiques nationales, mais si au niveau local on n'est pas capable de mettre en pratique cette loi Egalim et de permettre une meilleure alimentation au sein même de sa municipalité, ça ne peut pas fonctionner.
Alors ça nous amène, vous me donnez la transition, au municipal. On va faire un focus sur Rennes, hein. Je le disais en commençant, vous venez de Rennes, hein, quant à Salambien. Rennes aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est une ville test, une ville qui pourrait aller vers l'alternance. Elle est dirigée depuis 1977 par les socialistes. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques à l'endroit de la maire sortante, la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Est-ce que pour la première fois on peut imaginer que Rennes bascule dans le camp de la droite ou du centre. Alors, on pourra en dire un petit mot tout à l'heure avec les alliances possibles. Est-ce qu'il y a un espoir aujourd'hui ?
Il y a plus qu'un espoir, je vous dirais. Il y a vraiment un nouveau souffle démocratique qui s'ouvre à nous sur la ville de Rennes. Et c'est assez symbolique parce que, en tant que capitale bretonne, ça donne aussi un cap pour le reste des municipalités un peu partout en Bretagne. Je vais vous dire, 1977, c'est loin, c'est long. Et parfois, je pense que on l'oublie, mais l'essoufflement existe aussi en politique. Et aujourd'hui, les alliances qui sont faites à gauche, je pense à l'alliance entre le PS et les écologistes, ne pourront plus permettre de cacher la réalité d'un bilan qui se veut assez catastrophique, avec un dynamisme de centre-ville en perdition complet, avec une mobilité qu'on peut très fortement remettre en cause sur cette intermodalité entre les différents usagers que sont les cyclistes, les piétons et les utilisateurs de deux roues et de voitures. Enfin voilà, je pense que tout le monde a déjà emprunté la rocade rennaise ou les rues du centre-ville sur certaines heures de la journée et de la semaine. Vous avez des alliances qui sont tout à fait contre nature, avec des projets forcés par aujourd'hui les écologistes, mais qui tiennent le Parti Socialiste dans la victoire, puisque sans alliance, ils le savent, la perte leur est promise. Je pense vraiment qu'on a cette occasion aujourd'hui de faire basculer les choses.
La gauche est morcelée, on voit LFI part de son côté hein, à la conquête de la mairie, mais j'allais dire que dans le bloc central ou à droite c'est un petit peu compliqué aussi, on a Charles Compagnon donc pour le bloc central tête de liste et puis à droite on a son challenger Thomas Rousseau, il n'y a pas d'alliance possible entre la droite et le centre à Rennes ou c'est compliqué ?
Il m'appartient pas spécialement de commenter les alliances qui peuvent être faites ou non. Après, je vais vous dire une chose, c'est que le rassemblement, il est là. Il est là autour de Charles Compagnon. Il est là et il est le fruit d'un travail de bientôt 6 ans, d'un travail de terrain, d'un travail dans les conseils municipaux pour porter la voix des Rennaises et des Rennais, dans les quartiers avec les rencontres de ceux qui font vivre la ville, je le disais, les commerçants qui aujourd'hui souffrent d'une situation catastrophique et qui, pour beaucoup, ont peur pour leur devenir avec des projets comme le parking Vilaine qui les mettent en danger directement.
Alors pour nos auditeurs, le parking Vilaine est en cours de déconstruction. Hein, c'était un parking qui recouvrait une partie de la Vilaine. Ouais. Hein, voilà, je dis pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément Rennes.
C'est ça, un parking qui avait une rentabilité de plus d'1 million d'euros par an, dont la déconstruction coûte plusieurs millions d'euros, à une époque où chaque euro public est rare, et donc doit être utile, en tout cas à mon sens, aux collectivités et aux Français, là en l'occurrence aux Rennaises et aux Rennais, ce qui n'est pas le cas. Cette dynamique, elle est là. Elle réunit de la social-démocratie à la droite républicaine, parce que oui, Charles Compagnon est bien entouré, parce que la dynamique, elle est là, parce que nous avons des soutiens de tous bords politiques qui aujourd'hui croient en une alternance qui est plus que possible, qui se dessine, qui encore une fois se travaille, parce que c'est ça aussi. Je le disais tout à l'heure, la politique locale, c'est avant tout du travail, et c'est le résultat d'un travail.
Et c'est le terrain, on l'aura compris également.
Et c'est le terrain. Et quand vous n'avez pas été capable de construire la ville de demain sur des bases solides, et que vous êtes forcé de constater un bilan catastrophique, et bien à l'inverse, quand vous avez des politiques de proximité qui, eux, vont à la rencontre des citoyens et se préoccupent vraiment de ce qui les intéresse, c'est là que ça fonctionne.
Là encore, ma question un peu bateau, je la pose souvent le matin à mes invités. Comment faire mieux avec moins ? Car on a bien compris que les restrictions budgétaires, les économies à venir allaient aussi peser sur les territoires, sur les collectivités, sur des villes comme Rennes. En l'occurrence avec les dotations d'État qui risquent peut-être d'être revues à la baisse. Là aussi, il y a un projet qui doit faire mieux avec moins.
C'est indéniable. C'est indéniable parce que la situation financière ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, parce que oui, les collectivités sont soumises à une pression budgétaire énorme. Là encore, il faut aussi faire preuve d'efficacité publique. C'est un peu l'ADN d'Horizon, c'est l'ADN de nos élus locaux, c'est de dire que l'argent magique n'existe pas, qu'il y a des fléchages à opérer, des fléchages qui parfois, oui, peuvent ne pas être des plus ravissants. Et ça, c'est la réalité.
Il y a des choix cruels à opérer.
Mais bien sûr, mais si vous voulez qu'on puisse réussir à un moment à construire les villes de demain dans une certaine sobriété et avec lucidité, il faut voir la réalité en face et il faut admettre que l'argent magique n'existe pas. De même que si on vous donne 1000 euros et que vous avez un budget à tenir sur un mois en tant que citoyen, je dirais lambda, vous m'excuserez du mot, eh bien si vous dépassez et que vous dépassez 1700, il y a un moment, votre banquier va gentiment tirer la sonnette d'alarme. Il en est de même pour les collectivités locales. L'argent magique n'existe pas, il faut savoir le flécher. Aujourd'hui, à Rennes, ce n'est pas le cas. Quand on choisit d'orienter des budgets sur des projets d'écologie punitive ou sur des projets de déconstruction comme celui du parking Vilaine, là où la sécurité a besoin de budget, où les mobilités, l'emploi, le logement ont besoin de budget, c'est de la responsabilité du maire.
On le voit justement en termes de logement, il y a une grande demande, Rennes est très courue,
oui, c'est certain.
Il n'y a pas forcément tous les logements, on va pouvoir en dire un mot, et puis il y a aussi la sécurité qui est au centre des préoccupations. Rennes est souvent dans le feu de l'actualité pour le narcotrafic entre autres, et des fusillades et même parfois des meurtres. Comment là aussi agir fermement sur la sécurité avec les moyens qui sont alloués et qui peuvent là aussi être contraints, et redonner à Rennes un aspect d'une ville où l'on peut se promener tranquillement sans risquer de prendre une balle perdue par des narcotrafiquants, par exemple.
Je dirais que déjà, il s'agirait d'assumer ses responsabilités. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On peut éternellement se défausser sur l'État en disant que l'État est fautif, que les forces de police sont insuffisantes. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est une réalité. Les moyens, aujourd'hui, ne sont pas suffisants pour assurer la sécurité à l'échelle nationale. Et ça, c'est quelque chose qui fera bien évidemment partie du programme des municipales à Rennes. C'est de continuer ce travail avec les services de l'État pour davantage de forces publiques et de moyens sur la sécurité. Mais il faut rappeler aussi, et ce n'est pas un gros mot de le dire, que la municipalité, elle a sa responsabilité en matière de sécurité. Parce que le déploiement de la vidéoprotection, c'est de l'échelle municipale. Parce que la police municipale, son effectif, son armement et son équipement, ça dépend de la municipalité. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face en rejetant toujours la faute sur l'autre. Oui, l'État a sa responsabilité, mais la municipalité aussi.
L'État qui annonce qu'il va présenter, d'ailleurs le gouvernement, de nouvelles mesures législatives début 2026, justement en ce qui concerne le narcotrafic. Là aussi, ça va être à surveiller de près pour voir comment l'État renforce ses moyens, par exemple au niveau de villes comme Rennes.
Bien sûr, mais ça va être une vigilance accrue. Je pense que ça va être le fruit de débats assez houleux aussi. Il faut que ça passe par là. Aujourd'hui, la question, elle est cruciale. Il faut vraiment qu'on puisse mettre davantage de moyens sur la sécurité.
J'avais envie de vous entendre, il nous reste un peu plus de 5 minutes, sur les jeunes aussi qui s'engagent. Vous êtes venu souvent à notre
bien
micro quant à ça l'ambien. Aujourd'hui, les jeunes, on a l'impression, quel que soit d'ailleurs finalement le parti politique, qu'ils s'impliquent, qu'ils s'engagent, qu'ils ont envie de faire bouger les choses, parfois en passant un petit peu en force. Comment ça se passe sur le terrain aujourd'hui? J'imagine que vous tractez, que vous êtes déjà en campagne. Vous avez senti qu'il y avait un petit frémissement du côté de la jeunesse?
Oh, je dirais pas qu'il y a de frémissement. Il y a des idées à véhiculer. Il y a au contraire des idées à combattre quand on n'est pas d'accord. Moi, je vais vous dire, on a une véritable, à mon sens, responsabilité générationnelle. Si aujourd'hui on n'est pas capable de défendre nos idées, de faire entendre notre voix, demain nous serons confrontés à une impasse où finalement nos aînés, aussi bien qu'ils le peuvent, gouverneront, mais en oubliant la jeunesse. C'est pas le but. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que notre génération n'hérite pas d'un pays affaibli. mais au contraire, qu'elle participe à relever le défi, qu'elle participe à l'effort collectif, à ce discours positif. C'est important. Et je mets un point particulier là-dessus parce que souvent, on fait peur aux jeunes par des discours de voilà, par des discours négatifs, par une certaine défiance. Je ne pense pas que ce soit la position aujourd'hui qu'il faille adopter. Je pense qu'il faut faire preuve voilà, de positif. Oui, il y a de l'espoir. Malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré le brouhaha politique, c'est à nous de construire, c'est à nous de se mobiliser. Vous l'avez dit, ça passe par les appuis des candidats aux municipales. C'est le premier échelon, c'est important. Il y a ce côté militant qui est très important, c'est d'aller tracter, c'est d'aller coller des affiches, bien sûr. Mais les jeunes ne sont pas là que pour ça. Les jeunes, en 2026, et notamment chez Horizon, et on y met un point d'honneur, c'est des jeunes qui s'investissent, qui, sur les listes, seront candidats aux côtés des aînés, qui prendront des places de conseillers municipaux, d'adjoints, pour participer à cet élan démocratique. Partout en France, dans chaque région, nous aurons des jeunes Horizons sur les listes municipales pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, de proximité, de construction cohérente, de sobriété par rapport à l'avenir pour construire un cap assurément plus positif.
Voilà, c'est vrai, c'est pas très positif pour la jeune génération. On parle de guerre, de service militaire, avec une situation géopolitique compliquée, et une situation aussi aujourd'hui au niveau de l'emploi. Souvent, les jeunes ont du mal à trouver des premiers emplois. Là aussi, il y a un travail social à faire pour la jeune génération sur le terrain. Et ça fait partie aussi des engagements, même municipaux.
Bien sûr, et le travail, il est total. L'échelon municipal, il a entre ses mains de nombreuses, très nombreuses, prérogatives, la mobilité, le logement, l'emploi, tout ça, ça fait aussi partie des politiques municipales. Si aujourd'hui les jeunes n'y prennent pas part, j'ai envie de dire, on ne pourra pas y arriver. Il est primordial qu'on y aille parce que, encore une fois, les actions les réalisations les plus palpables, ce sont les actions municipales. Aujourd'hui, les décisions des conseils municipaux, des élus locaux, c'est ce qui va permettre, hier, l'extension d'une école à Orgères, c'est la construction d'une tribune à Dinard, la création d'un pôle de mobilité multimodale à Vannes, toutes ces réalisations, on parlait de sécurité, la construction d'un hôtel des polices à Cesson-Sévigné, voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais si on n'est pas capable de mettre les jeunes au cœur de ces décisions, on ne peut pas leur donner le bagage pour demain réussir. C'est cette responsabilité qu'on a chez Horizon, c'est ce que, en tout cas, on fait au quotidien. On se structure pour ça, on met en place des solutions de formation pour apporter les compétences nécessaires pour que demain, on puisse prendre les devants et aussi apporter notre parole politique.
En deux mots, on a vu Horizon quand même se positionner beaucoup sur l'échelon très local, municipal. C'était essentiel justement pour casser un peu une dynamique de tout parisianisme, pardon à nos amis parisiens qui nous écoutent, hein, mais en tout cas de centralisme.
Aucune défiance envers les Parisiens, bien sûr. C'est l'ADN d'Horizon depuis le début. C'est même, je vais vous dire, la raison principale pour laquelle je me suis investi, notamment chez les Jeunes Horizons, c'est cette construction locale, c'est cette possibilité de dire « nous aussi, nous avons notre voix, nous aussi, on peut s'investir, nous aussi, on a des idées à porter ». Et c'est ce que l'on tente de faire au mieux. Et pour ça, il y a un travail de proximité avec les élus. On a la chance de compter sur des élus à l'écoute de la jeunesse, qui aujourd'hui tendent la main à cette génération qui a aussi envie de participer à la vie démocratique. Et encore une fois, participeront pleinement au municipal pour faire en sorte de faire avancer les choses aux côtés des élus qui le sont déjà.
Quentin Salambien, référent Horizon Jeunes Bretagne, était avec nous ce matin dans la matinale pour parler politique et des sujets municipaux. Ils ne vont pas manquer dans les semaines à venir. Quelque chose me dit qu'on vous entendra à l'antenne de Bretagne 5. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
À vous de même.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.